Le texte que nous allons commenter se trouve dans la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens, Philippiens 1, versets 4 à 6, puis versets 8 à 11. En voici la lecture. Frères, chaque fois que je prie pour vous tous, c'est toujours avec joie à cause de ce que vous avez fait pour l'Évangile en communion avec moi, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Et puisque Dieu a si bien commencé chez vous son travail, je suis persuadé qu'il le continuera jusqu'à son achèvement, au jour où viendra le Christ Jésus. Dieu est témoin de mon attachement pour vous tous, dans la tendresse du Christ Jésus. Et dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la connaissance vraie et la parfaite clairvoyance qui vous feront discerner ce qui est plus important. Ainsi, dans la droiture, vous marcherez sans trébucher vers le jour du Christ, et vous aurez en plénitude la justice obtenue grâce à Jésus-Christ pour la gloire et la louange de Dieu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'épître aux Philippiens a probablement été écrit par Paul alors qu'il était en prison. Et là aussi, il y a une leçon, parce que c'est quand même extraordinaire. Donc, que bien qu'il soit en prison, eh bien, Paul ne désespère pas, et il a toujours foi en son action. Il est persuadé qu'il peut encore agir sur les Philippiens, bien qu'en prison. Comment ? Eh bien, il ne cesse de parler de prière. Donc, nous-mêmes, eh bien, parfois nous prions pour des gens que nous voyons très peu, parce qu'ils habitent loin, ou ils sont comme eux, ou alors eux-mêmes sont comme dans une prison, nous avons l'impression qu'il y a un mur de séparation qui fait que nous n'arrivons pas à les toucher. Eh bien, comme Paul, soyons convaincus que la prière est le moyen d'avoir le plus d'impact dans la vie d'une personne. Donc, nous-mêmes aussi, nous sommes parfois comme dans une prison. Nous avons l'impression que Dieu est bien loin de cette prison et que nous sommes seuls enfermés. Mais Paul, lui-même en prison, prie, et il est persuadé que sa prière, c'est le moyen de sortir, de faire que son action puisse passer les barreaux pour aller plus loin. Et bien, par notre prière, soyons convaincus que nos prisons ne vont s'ouvrir. Alors, allons plus en profondeur dans le texte. Frères, chaque fois que je prie pour vous tous, c'est toujours avec joie, à cause de ce que vous avez fait pour l'Évangile en communion avec moi depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Alors, si on reste à la littéralité du texte, c'est important aussi, bien sûr, mais moi, ce qui m'étonne quand même, c'est que, d'abord, comme j'ai dit tout à l'heure, Paul prie. Donc, la prière est une forme d'action. La prière, c'est pas un luxe. Donc, Paul prie dans la joie. Vous voyez, Jésus a dit que tout ce que vous demandez, faites comme si vous l'aviez déjà reçu. Ça dépend ce qu'on demande, hein. C'est ce que précise Jacques dans son épître. Vous voyez, comme la Bible peut éclairer d'autres passages. Il faut jamais. C'est pour ça qu'il faut mieux connaître la Bible, parce que on nuance les choses. Parce qu'il y a des gens qui disent, moi j'ai prié, mais j'ai pas été exaucé. Déjà, il faut être sûr que la prière était selon la volonté de Dieu. Comme le dit Jésus dans l'évangile de Luc, il y a une prière qui est sûre et certaine, exaucée, c'est la demande de l'Esprit-Saint, pour nous et pour nos frères, donc la conversion, pour nous et pour nos frères. Si ce n'est pas en ce monde, ça sera dans l'autre. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Donc, il faut prier. Et il y a des prières qui, si nous savons que c'est selon le désir de Dieu, nous pouvons être joyeux, parce que nous savons que ces prières ont un sens et qu'elles ont un impact. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette prière, Paul dit « à cause de ce que vous avez fait pour l'Évangile en communion avec moi ». Finalement, pour Paul, ce qui est important, ce qui est le plus important, c'est la progression de l'Évangile. Et oui. Et moi, ça me désespère toujours, notamment dans l'Église catholique, de voir combien l'évangélisation est reléguée aux oubliettes. Dans les paroisses, bon, je passe les charismatiques et d'autres personnes convaincues, mais la paroisse moyenne, ouvrons les yeux. Et peut-être vous-même qui m'écoutez, est-ce que pour vous, l'évangélisation est importante? Parce que il y a l'obstacle de dire, l'évangélisation, non, c'est du prosélytisme. D'abord, je rappelle que le mot prosélytisme n'était pas tabou à l'époque des premiers apôtres. Parce que le prosélytisme, qu'est-ce que c'est? C'est de faire des convertis. Alors, ça dépend du moyen, bien sûr, utilisé. Dans notre société, prosélytisme a pris un sens négatif qui veut dire faire des convertis plus ou moins par la force de persuasion. Alors, je suis d'accord, c'est pas une bonne idée d'utiliser la force. Mais prenons le mot évangélisation, qui est moins miné à notre époque. L'excuse d'abord, parfois sincère, non, évangéliser la liberté des gens. Mais attends, est-ce que tu as vu, est-ce que vous avez vu dans les médias, ça fait penser à Tour de Babel, voyez, les gens se sont mis tous d'accord, comme un seul homme, pour mettre Dieu hors de leur vie. Vos enfants, s'ils sont dans une école publique et même privée, entendent-ils parler beaucoup de Dieu? Quand ils allument la télé, ou vous-même, ou les frères pour qui vous avez peut-être des réticences pour prier et témoigner, ont-ils une véritable liberté de choix? Parce que tout dans notre société nous ramène au matériel, comme Satan le serpent. On rampe par terre et on ne lève surtout pas la tête, tel le serpent. Mais tout est fait comme ça. Mais alors, vous allez me dire, mais alors comment faire pour qu'ils soient libres? Leur témoigner, tout ça, comme ils sont tellement englués, la plupart des gens, dans leur confort, et qu'ils ont une image complètement déformée de Dieu, ça ne sert pas à grand-chose. Mais la prière, justement, c'est comme ce Dieu qui descend. Vous savez, la tour de Babel, il descend, il brouille les langues. Les langues, enfin, ces gens qui s'étaient mis d'accord comme un seul homme pour bouter Dieu hors de leur vie. Mais la prière, c'est pour nous donner l'occasion à Dieu de descendre et de brouiller le langage de Satan, le langage du mal, tout ce qui fait que c'est comme un seul homme, Dieu est rejeté dans des vies, notre prière introduit une joyeuse cacophonie, disons plutôt une joyeuse différence, et comme dans la Pentecôte, où les gens ont pu entendre le message d'apôtre, chacun dans leur langue. La prière, c'est le moyen pour nous de faire descendre Dieu, et qu'il donne ce Dieu, on a beaucoup de pieds dans la fourmilière des murs et des préjugés que les gens se sont construits contre Dieu, ou qu'on a construit pour eux, parce que la plupart des gens n'en sont pas conscients. Donc l'évangélisation, c'est pas un luxe, c'est Jésus aussi, Marc 16, Matthieu 28, faites des disciples de toutes les nations. C'est pas donner à manger à toutes les nations, ce qui est important, mais c'est d'abord faites des disciples. Alors donner à manger, le témoignage en charité, respectueux, et qui parfois ne débouche pas sur un témoignage en parole, c'est un moyen d'amener des disciples, c'est un moyen, à condition qu'on sache nous pourquoi on le fait, et que nous accompagnions ces gestes de charité par une prière qui, elle, doit être explicitement évangélisatrice. Mais autrement, si on se contente d'aller à la messe, point, et puis après c'est fini, on prie pour son, mais pas pour la conversion, mais pour la paix dans le monde vaguement, pour des choses, non, il faut prier pour des choses précises. Parce que la paix dans le monde ne viendra que si les gens se tournent vers Jésus. Donc l'évangélisation n'est pas une option. Si ça l'est devenu pour nous, eh bien, posez-nous la question, c'est que Jésus n'a pas un grand impact dans notre vie, parce que si vraiment nous mettons Jésus dans tous les aspects de notre vie, nous verrons qu'il a une influence dans notre vie et qu'on ne peut pas garder ce merveilleux ami pour nous tout seul. Alors maintenant, toujours par rapport à ce passage, je vous propose une interprétation dite tropologique. On va tourner le sens vers l'intérieur, c'est ce que veut dire tropologique, un tournement de sens, si je vous dis un tour de sens. Alors, vous voyez, nous-mêmes, quand nous prions, hein, puisque Paul ici, ou quand nous agissons, nous avons les actes de charité, et nous prions pour nos frères, nous essayons d'être à la hauteur, de ne pas amener un contre-témoignage, et puis nous prions pour eux, eh bien, Paul, lui, il a la foi. Regardez, je prie pour vous tous, donc, je prie, et il est convaincu que déjà l'évangile a fait du chemin grâce à sa prière en communion avec lui, depuis le premier jour où il a commencé à prier pour ces gens jusqu'à maintenant où il continue à prier. Donc comme Paul, soyons convaincus que l'évangile, la grâce de Jésus, fait son chemin dans le cœur, et que plutôt que de désespérer du manque de fruits apparents, parce qu'il faut du temps, parce que Dieu agit avec la liberté, la réticence et les préjugés des gens, donc il fait tomber les portes une à une, avec douceur et respect, parce que comme ça la conversion est obtenue librement, il n'y a pas de prosélytisme si elle est faite dans la prière, par notre intercession, il faut du temps. Mais soyons-en convaincus, l'évangile a fait du chemin. Cette soif de Dieu que les gens ont, qu'ils ont enterré, barricadé en eux, eh bien ça a fait du chemin. En ce monde, l'évangile fait du chemin, depuis que l'Église est là, depuis que Jésus est là, hein, il est crucifié, il est ressuscité, mais rien ne s'est passé. Quelle erreur! C'est le début de la fin. La croix du Christ, c'est le début de la fin des temps. Et la grâce de Dieu est de plus en plus présente. Mais elle travaille sous-jacente, jusqu'à ce qu'elle s'épanouisse à la fin des temps. Et c'est tout le sens des actes des apôtres. Si on voit là, il y a des passages où, par exemple, Paul fait des conversions dans les prisons, etc. Ils font des conversions et puis ils sont chassés par les notables, les femmes notables de telle ou telle ville, sous la pression des juifs. Et bien, vous voyez, en fait, Paul fait des conversions au cas par cas, dans la vie quotidienne, mais dans les hautes sphères, hein, les médias, les politiques, tout ce qu'on veut, il y a des obstacles. Ça n'empêche pas la grâce à Paul de travailler discrètement. La grâce travaille discrètement, mais sûrement, jusqu'à l'épanouissement. Et en attendant l'épanouissement, c'est comme une fleur. Avant qu'elle s'épanouisse, on ne sait pas qu'elle est là, forcément. Il n'y a rien qui se passe. Eh bien, c'est ça. Comme Paul, ayons foi. C'est toujours avec joie, à cause de ce que vous avez fait pour l'Évangile, à cause de ce que la grâce a progressé en communion avec ma prière depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Oui, et c'est pareil dans nos vies, dans nos efforts, dans nos péchés. Nous prions le Seigneur pour qu'il nous rende davantage semblables à lui, et puis ça n'a pas l'air de porter des fruits, toujours les mêmes défauts. Laissons les choses faire. Continuons à faire nos efforts, ne baissons pas les bras, et soyons convaincus que cette prière progresse, que nos prisons vont finir par s'ouvrir. Jésus ne fait pas exploser les portes, il scie les barreaux, si j'ose dire. C'est moins violent et ça fait moins de dégâts. Attention, tant que les barreaux, on n'est pas arrivé au bout du sillage, hein, tant que les barreaux n'ont pas été sciés à fond et que tous ont été sciés à fond, on ne peut pas sortir. Mais ça progresse. Donc soyons convaincus. Changeons de regard. Parce que si nous sommes convaincus que la grâce de Dieu travaille en nous, en nos frères, en ce monde, eh bien, en cette vie, mais alors c'est tellement différent, il n'y a pas de dépression, on sait que la victoire est assurée, que ce n'est qu'une question de temps. Alors Paul continue, et puisque Dieu a si bien commencé chez vous son travail, je suis persuadé qu'il le continuera jusqu'à son achèvement au jour où viendra Jésus-Christ. En d'autres termes, quand je prie pour quelqu'un, il a bien commencé son travail, je ne vois rien, il a l'air toujours aussi indifférent, mais je suis persuadé que Dieu continue son travail jusqu'à ce que Jésus vienne à la pleine conscience de cette personne. Quand le Christ viendra à la conscience de cette personne, eh bien nous verrons que notre intercession, qui a comme accompagné, arrosé cette grâce de Dieu, de Jésus, qui s'est incarné en ce monde, mais aussi dans le cœur de chacun de nos frères, aussi loin soit-il de lui, eh bien cette grâce, eh bien elle germe et elle va arriver à son achèvement. Donc redoublons de prière. Et puis, ayons toujours une charité plus active, sachant que la charité et la prière sont main dans la main ce qu'il faut pour que la grâce croisse et augmente dans le cœur de nos frères. Et pareil pour notre monde, nos églises se vident, mais c'est si on regarde avec les yeux du monde, mais regardons pas avec les yeux de sociologue, avec les yeux de la foi. C'est une étape à passer, mais le Christ, vous savez, l'histoire de l'église, très longtemps l'église avait en apparence un pouvoir, mais c'était pas bon. Elle étouffait la grâce de Dieu. Maintenant l'Église, Dieu lui montre que, comme chez les premiers chrétiens, que son travail premier, c'est le travail de l'intérieur des cœurs, du monde invisible, de la prière et de l'amour qui est dans le visible, le plus pauvre qui apparemment a le moins d'impact. C'est vrai, finalement on préfère la force. Eh bien l'amour, c'est comme une irruption du travail invisible de la grâce, du travail de la prière en ce monde qui se rend plus ou moins visible. C'est un moyen faible, pauvre en apparence, mais c'est le moyen. Donc ayons confiance. Dieu travaille en ce monde, et en son temps, ça s'appelle la fin du monde, la venue du Christ, les gens, eh bien, ce monde se tournera vers Dieu. Vous voyez, alors, cette interprétation anagogique, c'est vers la fin des temps, et puis il y a aussi dans notre vie, quand on prie pour nous, pour nos frères, la grâce de Dieu travaille jusqu'à pleine maturation, cette venue de Jésus-Christ. Voilà. De même, la mort, c'est ça. Cette vie, elle est là en maturation. Donc, Dieu commence son travail de grâce en cette vie et il la continuera jusqu'à son achèvement quand le Christ viendra. Est-ce que c'est comme ça qu'on voit la mort? Comme la venue du Christ, non pas, oh là là, qu'est-ce que je vais devenir? Bon, il y a cette vie, je ne sais pas ce qu'il y a de l'autre côté. Ah ben, mais quand on est chrétien, on sait ce qu'il y a de l'autre côté. On sait surtout qui il y a de l'autre côté. Donc, cette vie a un sens que dans la mesure où elle nous prépare des gens étant heureux avec le Christ de ce monde, hein, c'est pas ce que je veux dire, ce monde est important, mais elle nous prépare à la pleine révélation de Jésus. La mort est l'aboutissement et non pas la fin, F-I-N. Voyez. Alors continuons. Dieu est témoin de mon attachement pour vous tous dans la tendresse du Christ Jésus. Voyez, Dieu est celui qui, par Jésus, la tendresse du Christ Jésus, Jésus, c'est la manifestation de la gloire de Dieu. C'est ce que dit Paul dans ses épîtres. Et c'est ce que dit aussi Jésus quand il dit qu'il viendra dans sa gloire, qu'il est assis à la droite de Dieu. Et cette manifestation de la gloire de Dieu, c'est l'amour de Dieu. C'est sa tendresse. Jésus, c'est la tendresse de Dieu. Et la tendresse de Dieu, c'est Dieu. Alors, vous voyez, Jésus, c'est Dieu qui a pris visage humain. C'est pour ça que par rapport à d'autres religions, mais forcément, il leur manque quelque chose. Ils n'ont pas mis un visage à Dieu. L'islam, c'est pas étonnant que leur Dieu soit si terrifiant, si loin, si finalement si mort, sous sa étouffé dans sa cape de toute puissance. Ben oui, parce que Dieu n'a pas pris un visage humain. Ou alors vous avez le bouddhisme et tout ça, il n'y a même pas de Dieu. Alors, cette espèce de roue, finalement, dans le bouddhisme et l'hindouisme, vous avez dans le système de réincarnation ce que Paul appelle la loi, finalement, c'est agir par soi-même et Dieu est absent. On se débrouille par nous-mêmes. Et puis si ça ne suffit pas, on aura d'autres vies. Et qu'est-ce que c'est désespérant? C'est vide. Il n'y a pas de présence d'amour là-dedans. Donc, Jésus est là. C'est la tendresse de Dieu. Et donc, c'est l'aboutissement. Mais c'est aussi le début. Jésus dit dans l'Apocalypse qu'il est l'alpha et l'oméga. C'est aussi l'alpha, le commencement. Qui sait comment pouvoir prier avec ferveur pour les gens et que cette ferveur déborde en acte de charité, de pardon, si ce n'est pas Dieu qui nous donne cet amour? Dieu est témoin de mon attachement pour vous tous dans la tendresse du Christ Jésus. Il faut qu'on soit dans la tendresse du Christ Jésus. Comment être dans sa tendresse si ce n'est le fréquenter par la prière, la lecture de sa parole, l'obéissance à sa volonté? Donc, non seulement prions pour nos frères, prions pour que nous soyons des témoins efficaces. Oui, c'est sûr. Mais prions, oui, d'abord pour que Jésus nous façonne dans le cœur et qu'il nous donne un cœur de chair, comme dit Ézéchiel, non pas un cœur de pierre. Seul Jésus fera de nous des intercesseurs efficaces et des chrétiens efficaces et aimants. Et dans ma prière, continue saint Paul, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la connaissance vraie et la parfaite clairvoyance qui vous feront discerner ce qui est plus important. La prière, le but de la prière, c'est de se configurer au Christ. C'est pas d'abord prier pour telle ou telle chose ou des choses matérielles, c'est prier pour être toujours davantage semblable au Christ, à sa tendresse. Et vous voyez, prions vraiment pour que le Christ nous aide à être, si j'ose dire, des surhommes de l'amour. Parce que c'est ça le chrétien. Bon, on ne sera pas parfait, on fera toujours des péchés. Mais nous, chrétiens, nous devons, et c'est ça le Christ, l'arme, c'est pas comme les moines Shaolin ou les arts martiaux, faire des exploits avec son corps ou je sais pas quoi. Être chrétien, ça paraît pauvre, mais c'est être un athlète de l'amour. Et on n'y arrive que si on reste dans la tendresse du Christ, parce que bien sûr, seul le Christ peut faire de nous ses athlètes. Et il faut du temps, parce que souvent nous sommes bien réticents et bien égoïstes. Mais ne baissons pas les bras. Parce que s'il est important de l'être, parce que comme je viens de le dire, l'amour, c'est l'invisible par excellence. Vous savez, il y a des gens qui disent, moi je ne crois pas en Dieu, tout ce que vous voulez, le monde invisible, ça n'existe pas, je crois que ce que je vois. Mais ils vont pas vous dire, l'amour n'existe pas. Mais l'amour, c'est quoi? C'est un sentiment. Ça peut se voir un peu par les actes des autres, mais c'est avant tout un sentiment, quelque chose que l'on éprouve. Et l'amour, c'est ça le grand secret. Dieu est amour. L'amour, c'est Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu est une idée, mais l'amour, on pourrait dire, est une personne. L'amour, c'est le Christ. L'amour, c'est Dieu qui se fait homme et qui meurt pour nous sur une croix pour nous sauver des catastrophes qui nous auraient conduit, nous, sur la croix, à la mort, en d'autres termes. Ça, c'est de l'amour. C'est comme le dit Jean dans sa première épître. À ça, nous reconnaissons l'amour que Dieu nous a aimé le premier. Eh bien, vous voyez, l'amour, c'est vraiment l'invisible par excellence. Donc, c'est tout à fait normal de demander donc que notre amour progresse. Que notre capacité à vivre dans l'invisible, à vivre avec Jésus-Christ, progresse. C'est ça, hein, finalement. Et que cette vie avec Jésus, eh bien, se manifeste dans le visible par l'amour, parce que l'amour, c'est aussi la puissance de l'invisible, c'est l'invisible par excellence, c'est une personne, donc Dieu, et l'amour, c'est aussi comme ça que Dieu s'extériorise, que Dieu se montre en respectant la liberté des gens. C'est pour ça que nous, dans ce monde, l'Église a ce rôle de manifester la présence de Dieu avec respect et amour. Donc prions Dieu pour qu'il fasse de nous des phares de sa présence, non pas d'abord par des beaux arguments, mais par l'amour, parce que c'est comme ça que nous toucherons les gens. Et si nous sommes au contact de Dieu, et si l'amour, donc cette capacité à s'ouvrir à Dieu, grandit, eh bien nous aurons la clairvoyance et la connaissance, nous connaîtrons Dieu davantage, et nous saurons ce qui est important, c'est-à-dire le travail invisible et les sentiments du cœur, avant la force, etc., ou le monde visible. Et alors, nous pourrons aimer au-delà de ce qui est, de ce qui est raisonnable. Des fois, les gens disent, moi je ne peux pas l'aimer, je ne l'aime pas, je ne pardonne pas. Il est irrécupérable. Mais si nous avons l'amour, nous avons la clairvoyance, nous savons ce qui est important. Prier pour ses frères parce que la grâce agit en eux à la mesure de notre prière et de notre amour pour eux. Cette prière, cet amour dynamisé, nourri eux-mêmes par la présence du Christ, qui lui-même est nourri en notre cœur par notre prière pour nous-mêmes, pour progresser dans cet amour. Vous voyez, donc nous sommes appelés, si je résume, à prier pour que l'amour transpire de plus en plus par nous, et comme ça nous serons les icônes de la présence du Seigneur, et que cette connaissance de Dieu grandisse en nous pour nous montrer vraiment la véritable façon d'aimer, ce qui est important, aimer au-delà des apparences les gens qui ne sont pas entre guillemets aimables, etc., et aimer vraiment, parce que des fois le monde par amour vous présente un avortement, oui, donc je dis par amour. Ils appellent des fois amour ce qui ne l'est pas, etc., etc. Donc méfions-nous, seul Jésus peut nous aimer, oui nous aimer, mais nous aider, pardon, à aimer de manière juste et droite. Alors maintenant, si on a une interprétation légèrement différente, il dit, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la connaissance, etc. L'amour donc, c'est la présence de Dieu dans tous nos frères. Aussi loin de Dieu soit-il, il y a cette présence, cet amour qui est là. Vous savez, il y a des gens qui crachent sur Dieu, etc. Et on dit, mais ils aiment quand même. Bon, il faut nuancer, il faut voir comment ils aiment, il faut les connaître mieux déjà. Mais c'est vrai. Heureusement, l'amour est aussi présent dans ceux qui ne croient pas en Dieu. Mais c'est parce que Dieu agit en ce monde grâce aux prières des moines, grâce à nos prières. Dieu arrive à se faire des espaces. Et les espaces qu'il se fait, qu'il arrive à manifester en ce monde, c'est les gestes d'amour, y compris dans le pire ennemi de Dieu, hein, celui qui va le blasphémer. Ça, ben voyons les choses importantes avec clairvoyance, c'est un sujet de joie, parce que ça prouve que Dieu agit. Mais ça prouve aussi que donc l'amour est en chaque personne, il y a l'image du Christ en chaque personne, mais nous pouvons faire progresser cet amour en priant pour ces gens. Les plus aimés de Dieu, au-delà des apparences, prions pour faire progresser cet amour, et donc cette connaissance du Christ qui va venir à leur conscience et qui va leur faire changer de vie, parce que aimer Jésus et se donner à lui, ça finit par faire changer de vie, parce que nous voyons les choses différemment. C'est tout le sens de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, où on nous dit que Abraham a accepté de sacrifier son fils Isaac. Bon, au dernier moment, ça ne s'est pas fait, parce qu'il savait que Dieu pouvait lui rendre la vie. En d'autres termes, aimons au-delà de ce qui est humainement possible, grâce à l'aide de Dieu, parce que nous savons que cet amour est efficace. Pardonnons quelqu'un qui, en Jésus-Christ, donc lui peut nous aider à pardonner, hein. Pardonnons, aimons des gens qui ne sont pas aimables, parce que nous savons que c'est utile, que c'est bon pour eux, que c'est une manière, par notre prière aussi aimante pour eux, prier pour ceux qui vous persécutent, c'est une manière de les amener à Dieu. Donc regardons là des apparences, et que ces gens donc pour qui nous prions progressent dans la connaissance du Christ et sachent discerner ce qui est important, qu'ils se rendent compte qu'il y a un monde invisible, qu'il y a autre chose que ce que l'on voit, etc. Que dans leur déprime, il y a autre chose que des cachets qui peut les aider, etc. Ou des psychologues, ou des psychiatres. Il y a d'abord Jésus. D'abord Jésus, etc. Et c'est aussi un appel, donc, si nous progressons dans l'amour, et nous prions pour nos frères, et nous-mêmes, pour que l'amour progresse en nous, pour que nous ouvrions de plus en plus à Jésus, et que nous sachions discerner ce qui est vraiment important. Plus de connaissance de Jésus, et vraiment agir, comme je le disais tout à l'heure, avec le monde invisible dans la tête, ce qui se passe dans les cœurs, dans le sous-jacent, avec donc que notre impatience ou que nos préjugés se transforment en patience et en amour, sachant que la grâce travaille quoi qu'il en soit. Et de même pour nous, que nous ne baissions pas les bras dans nos prisons, sachant que les barreaux sont sciés petit à petit et que la gloire de Dieu progresse, l'amour de Dieu progresse. Donc continuons à prier, comme Paul, demandons cet amour pour nous et pour nos frères, qu'il progresse, pour que nous sachions voir au-delà des apparences ce qui est important et que nous connaissions de plus en plus le Christ. Voilà ce qui est important. Donc après, Paul enchaîne, ainsi, dans la droiture, vous marcherez sans trébucher vers le jour du Christ et vous aurez en plénitude la justice obtenue grâce à Jésus-Christ pour la gloire et la louange de Dieu. Deux phases. D'abord, ainsi dans la droiture, vous marcherez sans trébucher vers le jour du Christ. Donc si nous vivons dans la prière, si nous prions pour que cette grâce de Dieu augmente en nous, dès cette vie, nous allons nous ajuster à Dieu de plus en plus et nous serons de plus en plus aimés sans trébucher avec les yeux fixés sur la venue du Christ. Le jour du Christ, c'est d'abord, on va dire, si on reste dans notre vie quotidienne, c'est quand enfin le péché que nous avions du mal à vaincre, etc., est vaincu. C'est quand enfin la personne pour qui nous avons prié, eh bien enfin la grâce est arrivée à sa conscience. C'est pour cette personne aussi le jour du Christ. Eh bien, prions pour que nous sachions, en attendant cette venue, ne pas trébucher. C'est-à-dire que nous sachions regarder ce qui est important et que nous sachions, comme Paul, être dans la joie. Parce que l'évangile, l'amour progresse dans les gens qui sont loin de Dieu, en nous-mêmes, qui sommes dans des prisons. Oui, soyons convaincus que demandons à Dieu de pouvoir, dans cette phase de latence, où a priori nous-mêmes nous sommes toujours dans nos prisons, toujours victimes de notre péché, nos frères ne se tournent pas vers Dieu, ce monde est loin de Dieu, eh bien, que nous sachions ne pas trébucher, que nous ne baissions pas les bras, parce que le jour du Christ va arriver. C'est aussi, bien sûr, c'est sûrement à ça que pensait Paul. C'est-à-dire que cette vie, sachons vivre avec le Christ, malgré les problèmes que cette vie a, nous ne serons jamais parfaitement ajustés au Christ, mais sachons tenir le cap dans la prière et la lecture de sa parole et la charité, en attendant la mort. Parce que la mort, c'est une délivrance, c'est une libération. Et elle le sera vraiment si de plus en plus nous vivons avec le Christ. Ce passage vers la mort sera fait d'autant plus facilement. Et c'est important de penser à la finalité de notre vie, parce que ça relativise ce qui arrive aussi dans cette vie. Cette vie n'est pas une fin en soi. Cette vie, elle doit être vécue comme une préparation à la vraie vie. Donc parfois, il nous arrive des problèmes, mais ça va peut-être, comme le dit l'Épître aux Hébreux au chapitre 11, Dieu nous corrige, nous éduque. Donc telle circonstance ou telle chose qui ne vont pas comme on voudrait, c'est pas grave, ça contribue à nous former pour que nous soyons aptes à être à vivre avec le Christ. Si nous voyons les choses comme ça, alors ce qui nous arrive a un sens. Alors, après, donc, vous voyez, prier, avoir les yeux fixés sur l'invisible dans le travail qui se fait dans les cœurs, ça donne un sens à notre amour, à notre patience, à notre pardon. Et puis, avoir les yeux fixés sur le jour du Christ, qui est la mort, ça donne aussi un sens à ce qui peut arriver dans notre vie, parce qu'elle doit être vue comme une préparation. De même, ce qui arrive en ce monde est une préparation, c'est ce qui germe, germe, jusqu'à ce que la fleur, comme un tournesol, se tourne vers Dieu, c'est ce monde, c'est la fin des temps. Eh bien, la fin des temps doit être vécue dans la joie. Nous devons attendre avec impatience la venue du Christ en ce monde, hein, ce qu'on appelle la fin des temps aussi. Maintenant, vous voyez, l'interprétation aussi peut aller dans ce sens-là. C'est d'ailleurs en ce sens-là sûrement que Paul parle. Oui, est-ce que nous pensons, est-ce que nous sommes impatients que le Christ revienne? Si ce n'est pas le cas, et si nous craignons aussi la mort, ça veut dire que le Christ n'est pas présent dans notre vie, et ça veut dire que sûrement nous avons du mal à aimer nos frères, à faire des efforts dans notre vie, parce que nous ne pensons pas que la grâce est là qui travaille. Vous voyez, tout est lié, toutes les interprétations se rejoignent. Alors la deuxième phase, la fin de ce passage, c'est: vous aurez en plénitude la justice obtenue grâce à Jésus-Christ pour la gloire et la louange de Dieu. Ça, c'est la fin. Ça, c'est, vous voyez, je ne peux pas m'empêcher de penser à la mort. Finalement, cette vie, c'est une marche, on ne doit pas trébucher, on voit le Christ, mais c'est un peu à l'image de l'Eucharistie, une présence discrète, mais efficace, mais travail à l'intérieur. Mais en tout cas, avec la mort, cette présence discrète du Christ, eh bien, elle va être plénitude de justice. Justice, c'est s'ajuster à Dieu. Nous serons pleinement avec Dieu, face à face avec lui, 1 Corinthiens 13, et ajustés à lui. Et ça nous est obtenu par le sacrifice du Christ, par sa croix. À la croix, c'est la grâce de Dieu qui a pu enfin venir en ce monde sans obstacle, si ce n'est notre manque de foi. C'est ce qui est arrivé à Nazareth où Jésus a fait peu de miracles. Mais la grâce, elle est là, grâce à Jésus. Il faut tendre la main pour la saisir. Par la prière, en changeant sa vie, en demandant à Jésus de le faire, hein, que l'amour progresse en nous. Et donc, c'est pareil, donc la mort doit être vécue comme ça. Et pour la gloire, la louange de Dieu. Dieu nous aime tellement que c'est pour lui qu'il nous veut, contre son cœur. C'est incroyable, Dieu n'a pas besoin de nous et pourtant il veut que nous soyons avec lui. Car sans nous, sans toi, mon frère, eh bien, il manquera, si j'ose dire, quelque chose à la joie de Dieu. Quel est donc ce Dieu qui nous aime comme ça et qui donc est prêt à aller jusqu'à la croix pour que cette grâce te soit disponible à condition que tu la saisisses ou que tu la saisisses pour tes frères en priant pour eux. Voyez. Et donc, c'est aussi, hein, la fin des temps. Et c'est aussi, de nouveau, l'attente de l'exaucement, hein, si on reprend ce qu'on appelle l'interprétation anthropologique. Donc on marche, on trébuche, on aime nos frères, on est patient, on intercède pour eux, plus ou moins bien, on essaie de les aimer malgré tout, même si des fois ils sont indifférents, ils ne sont pas gentils avec nous, mais on aura en plénitude la justice obtenue grâce à Jésus-Christ. Jésus-Christ travaille à la mesure de notre prière, parce qu'il le veut, Jésus-Christ, travailler par l'homme pour que l'homme soit libéré par l'homme, pour que la liberté de l'homme soit vraiment respectée. C'est tout le sens de l'incarnation. Il s'est fait homme pour que ce soit un homme qui sauve l'humanité. Comme ça, la liberté de l'humanité est respectée. Nous pouvons, par procuration, donner à ceux qui sont loin de Dieu ce surcroît de liberté qui fait qu'ils s'ouvrent à Dieu. C'est en ce sens-là que je dis, c'est à la mesure de notre prière, notre intercession, que la grâce de Jésus progresse. Parce que les gens, hein, je l'ai déjà dit, ne sont pas pleinement libres comme la tour de Babel. Ils sont aveuglés par ce monde qui leur remet toujours la tête dans le sable, comme le serpent qui rampe. Et notre prière, nos actes de foi, notre témoignage en actes et en parole, si c'est possible, toujours accompagné de la prière, eh bien, c'est ce qui permet à Dieu de descendre et de casser ce mur d'uniformité, cette langue unique. Hein, comme dans la tour de Babel. Eh bien donc, cette grâce de Jésus-Christ, eh bien, ne trébuchons pas, continuons à prier, aimons au-delà de ce qui nous est possible ceux qui ne nous aiment pas, pardonnons, etc. Prions pour ceux que nous essayons de pardonner. Eh bien, c'est comme ça que la justice de Dieu, grâce à Jésus-Christ, c'est cette grâce de Jésus, ce Jésus qui s'incarnant dans les cœurs par notre prière, eh bien, c'est comme ça que Jésus va faire passer de la croix cette personne à la résurrection. Eh bien, cette grâce, elle va s'épanouir pour la gloire et la louange de Dieu. C'est parce que, pareil, comme le dit Jésus, pour un pécheur qui se convertit, il y a plus de joie dans le ciel que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Voyez, si donc Jésus, cette parole de Paul nous dit, marche sans trébucher, avec comme espoir que la grâce de Dieu travaille et la conversion arrivera dans le cœur de ton frère. Eh bien oui, la plénitude va arriver, la grâce de Jésus va arriver à maturation, et ça sera la louange de Dieu, Dieu qui sera heureux, heureux de voir quelqu'un venir vers lui. Pareil, tu es dans ta prison, tu es dans ton péché. Eh bien, continue à prier, à ne pas baisser les bras et à faire des efforts guidés par la prière, des efforts que Dieu te demande. C'est pas par les efforts qu'on se sauve, mais c'est les efforts sont un moyen d'accompagner la prière et la grâce de Jésus. Eh bien, si tu as cette marche, cet espoir que Dieu travaille en toi malgré ta prison, malgré la tristesse qui parfois t'enveloppe, malgré ton péché qui te remet la tête dans le sable, eh bien il va arriver que ce péché va finir par mourir, que cette zone d'ombre en toi va finir par s'éclairer, ces barreaux de prison vont finir par être tous sciés et tomber les uns après les autres, et tu auras la plénitude de justice, c'est-à-dire que tu seras encore un peu plus ajusté à Dieu grâce à Jésus-Christ qui a travaille en toi à la mesure de ta prière et de ta foi qui s'est manifestée pleinement par des efforts que Jésus peut te demander, tout ça pour la gloire du cœur de Dieu, pour sa plus grande joie. Et comme je l'ai dit, c'est aussi la vie après la mort, c'est l'aboutissement, cette vie. Ou alors nous marchons tant bien que mal, mais toujours les yeux fixés vers Jésus, c'est ce que dit Paul, hein, vers le but qui est Jésus-Christ. Eh bien, si nous marchons comme ça, eh bien la gloire, nous rentrerons, la grâce de Jésus-Christ s'épanouira pleinement au-delà de la mort pour la gloire et la louange de Dieu. Nous verrons Dieu face à face et nous serons contre son cœur pour sa plus grande gloire et sa plus grande joie. Car nous sommes la gloire de Dieu. Chaque personne est la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'il est important, comme je disais tout à l'heure, d'évangéliser par la prière, par les actes et éventuellement par la parole, mais toujours avoir au cœur, à cœur plutôt, la progression de l'évangile. Et puis c'est ce monde qui trébuche avec tous, et puis nous sommes au cœur de ce monde, c'est témoin de l'amour, hein. Nous sommes ces icônes où Dieu, par notre amour, par chaque acte de charité, arrive à manifester l'amour, donc l'invisible sur le visible. Il arrive à se rendre présent dans cette tour de Babel, par tous ces moines qui prient aussi, par notre prière, etc., jusqu'à ce que le monde, Romains 8, se transforme, etc. Hein, c'est cette nature qui gémit après la gloire des fils de Dieu. Eh bien, ce monde va se transformer et la fin des temps sera comme un aboutissement de la germination de ce travail silencieux de Dieu dans ce monde, telle une fleur qui finit par germer, traversant l'opacité et l'épaisseur de la terre. Voilà, c'est ce que je voulais vous faire entendre. C'est un message d'espoir pour redoubler d'amour et de prière, de se mettre toujours davantage à l'écoute de Dieu et lui demander que toujours cela transparaisse dans nos vies et transpire dans nos vies. Voilà. Et bien sur ce, je vous propose de prier, si vous voulez bien. Je vais vous laisser pour cela un temps de silence où vous allez pouvoir prier à partir de ce commentaire. Ensuite, je me joindrai à vous en priant à haute voix. Et enfin, je vous laisserai un nouveau temps de silence pour vous permettre de faire votre cette prière. Ô Seigneur, oui, donne-nous des âmes d'évangélisateurs, et pour ceci, fais progresser en nous la charité, que nous soyons des êtres d'amour pour toi par une plus grande connaissance de ta personne et pour nos frères. C'est bien ce que tu as dit, les deux plus grands commandements, c'est d'aimer Dieu et son prochain comme soi-même. Alors fais de nous des témoins de l'amour en augmentant notre amour pour toi, et que cet amour pour toi transpire sur un amour plus grand pour nos frères. Seigneur, donne-nous l'espérance, oui, aide-nous à regarder au-delà des apparences, ce travail que tu fais dans nos cœurs, dans le cœur de nos frères, dans le cœur de ce monde, oui, où tu fais germer ta présence, tu fais germer ta gloire pour la plus grande joie de Dieu. Fort de cette conviction, nous prions pour nos frères qui sont loin de toi. Et nous prions aussi pour nous-mêmes, que nos cœurs, que notre inconscient, que notre cœur s'ouvre toujours davantage à toi, que les zones d'ombre s'éclairent petit à petit à la lumière de ta grâce dans nos cœurs. Et nous prions, Seigneur, pour ce monde qui est loin de toi. Et Seigneur, aide-nous à voir cette vie comme une préparation à la mort qui n'est qu'un passage vers, oui, vraiment la gloire et la louange de Dieu. Amen. J'espère que ce moment passé avec la parole de Dieu en ma compagnie vous a aidé à vous rapprocher du Seigneur. Soyez assurés de ma prière. À bientôt, je l'espère, chers internautes.